j'entends des personnes qui veulent des commissions d'enquête parlementaires. La commission d'enquête parlementaire ne doit pas être en concurrence avec la justice.
Là, c'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique.
Emmanuel Macron nomme une macroniste dans un moment de défiance démocratique.
Il y a, je trouve, un fond de misogynie derrière les attaques qui ciblent aujourd'hui Amélie de Montchalin.
Il n'y a strictement aucune raison pour que Madame de Montchalin soit légitime à la tête de la Cour des comptes.
Elle est en train de préparer le budget dont elle sera appelée à donner un avis dès le mois de septembre. Vous voyez bien que là, il y a un côté jugé parti.
Elle pourrait rester aujourd'hui 28 ans en fonction.
Et je suis sûr qu'elle ne restera pas pendant 28 ans à la Cour des comptes.
On trouve qu'il y a là une république des copains.
Comme vous, le 22 mars, je vais voter Pierre-Yves Bournazel.
Qu'est-ce que j'en entends des commentaires? Des commentaires psychologiques, des commentaires tactiques, des commentaires stratégiques, des commentaires dans tous les sens, qui ont sans doute la vertu d'intéresser les commentateurs, mais qui ont l'inconvénient majeur d'emmerder totalement les électeurs.
Yael Braun-Pivet qui ne veut pas d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Amélie de Montchalin, nommée à la présidence de la Cour des comptes, au mépris du conflit d'intérêts manifeste et la campagne municipale dans la capitale qui vire franchement au numéro de cirque. C'est le sommaire de cette édition 142 du Bourbon de Serge. Le macronisme agonise, mais jusqu'à son dernier souffle, il abîmera la République et ses institutions. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, vient ainsi de refuser la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein.
S'il y a des ramifications françaises vers toute la lumière, donc il faut que la justice puisse être saisie. Je vous rappelle, parce que j'entends des personnes qui veulent des commissions d'enquête parlementaire, la commission d'enquête parlementaire ne doit pas être en concurrence avec la justice, c'est la limite des commissions d'enquête.
Ça peut pas être pas en concurrence.
Et pas sur les mêmes faits. En fait, pas sur les mêmes faits.
Bon, c'est un rappel
donc,
utile.
Ça, c'est aussi important. Le Parlement, ça entraînerait de la confusion des pouvoirs.
Concurrence avec la justice, dit Yael Braun-Pivet. Mais cette concurrence n'existe pas. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une enquête du parquet national financier contre Jack Lang et sa fille Caroline pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et c'est tout. Or, l'affaire Epstein, en France, dépasse très largement la seule personne de l'ancien ministre de la Culture, aussi mégalomane fut-il. Il y a d'abord le rôle de Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequin qui s'est suicidé dans sa cellule en 2019. Très proche d'Epstein, ce Français était accusé de viol par d'anciennes top modèles. Son décès a entraîné la clôture de l'enquête judiciaire ouverte en France en 2019. Or, il reste bien des choses à découvrir. Par exemple, le rôle exact de Fabrice Sédan, ce diplomate français qui a côtoyé Epstein entre 2010 et 2017. Mardi 10 février, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a saisi la procureure de la République de Paris au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Fort bien. Mais Fabrice Sédan n'est qu'un maillon de la chaîne. Car plus on avance dans l'exploitation des mails d'Epstein, plus on découvre d'intrigants personnages dont la trajectoire passe par la France. Ainsi Daniel Siad, ce rabatteur né en Algérie, qui possède également la nationalité suédoise. Il a opéré dans de nombreuses villes, dont Paris. Ce mardi, une ressortissante suédoise a porté plainte contre lui pour un viol commis dans la capitale dans les années 1990. La justice fera son travail, du moins on l'espère. Mais seule une commission d'enquête parlementaire peut embrasser toutes les activités de ce réseau en France, la pédocriminalité comme l'affairisme ou les stratégies d'influence. Cette commission, Yael Braun-Pivet n'en veut pas, comme en 2018. Alors présidente de la commission des lois de l'Assemblée, elle avait enterré en grande pompe l'enquête sur l'affaire Benalla. Au bout d'une semaine, la commission qu'elle présidait, transformée pour la circonstance en commission d'enquête, avait stoppé ses travaux au motif que la justice était saisie. Le Sénat, lui, n'a pas eu peur de son ombre. La commission d'enquête mise en place par la Chambre haute a mené un travail exemplaire sous la conduite de son président, le sénateur LR Philippe Bas. Le public ne s'y est pas trompé puisque les auditions menées par la commission ont enregistré des records d'audience. Que dissimule cette frilosité de Yael Braun-Pivet? Rien d'autre que la trouille de voir ce scandale international tourner au feuilleton franco-français au fil des découvertes. Alors, comme Emmanuel Macron, la présidente de l'Assemblée nationale met la poussière sous le tapis.
Vous savez, c'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique.
Il y a des personnalités françaises, oui, je ne citais pas.
Il y a des personnalités françaises qui sont citées. Et donc la justice fonctionne travail, mais je pense qu'elle concerne surtout les États-Unis d'Amérique.
Une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique, affirme le président de la République. Mais si c'est vraiment le cas, pourquoi s'émouvoir de la création d'une commission d'enquête parlementaire ? La refuser, c'est servir la soupe aux complotistes de tout poil. Si la Macronie se montre extrêmement sourcilleuse sur le périmètre respectif de la justice et de la représentation nationale, elle fait preuve en revanche d'une singulière décontraction lorsqu'il s'agit de placer les copains au poste clé. La nomination d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes en est le dernier exemple en date.
Le sujet, c'est Emmanuel Macron nomme une macroniste dans un moment de défiance démocratique. Il choisit de nommer quelqu'un qui lui doit tout, dont il a dit d'ailleurs lui-même dans une cérémonie de remise de médailles qui n'était pas en chocolat à l'Élysée il y a quelques jours, qu'il avait une dette envers celles et ceux qui l'avaient accompagné dans sa conquête du pouvoir. Il lui donne la responsabilité d'une institution qui doit être préservée du jeu politique, d'une institution qui doit être au-dessus de tout soupçon de la part de nos compatriotes. Et donc M. Macron fait deux choses. À la fois, il met sous sa coupe la Cour des comptes. Ensuite, il s'offre aussi un répit au pouvoir, puisque M. Macron aura quitté l'Élysée en 2027, mais continuera à avoir des proches, des siens, à des fonctions de responsabilité importantes dans la République, Mme de Montchalin à la Cour des comptes, M. Ferrand au Conseil constitutionnel. Et tout ça, je le dis, dans un moment où nos compatriotes doutent de la démocratie, dans un moment où l'extrême droite, les forces autoritaires montent, progressent partout à travers le monde, en Europe et y compris en France, en contestant nos institutions.
Ce n'est pas la femme d'un clan, proteste-t-on du côté des macronistes.
Moi, je ne comprends pas bien la levée de bouclier que vous évoquez concernant Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin a été 4 fois ministre des comptes publics. Elle est reconnue pour sa compétence. Ça a d'ailleurs été souvent dit dans les débats parlementaires pendant le budget qu'elle n'était pas la femme d'un camp, mais qu'elle avait su créer les conditions du consensus et du dialogue. Et donc, elle est pleinement légitime et tout à fait compétente pour cette fonction. Et il y a, je trouve, un fond de misogynie derrière les attaques qui ciblent aujourd'hui Amélie de Montchalin.
On cherche en vain des preuves de son indépendance, rétorque le Rassemblement national.
Madame de Montchalin, dans son parcours politique, n'a à aucun moment fait preuve d'indépendance par rapport à Emmanuel Macron. Elle doit toute sa carrière à Emmanuel Macron, qu'il avait déjà recyclé à l'OCDE. À l'OCDE, elle était déjà indépendante, elle est redevenue ministre des comptes publics. Elle n'a absolument pas démontré, contrairement à ce que vous dites, de compétences particulières à Bercy. Les comptes sont dans le rouge. Le budget de 2025 n'a été que des hausses d'impôts. Celui de 2026 alourdit la dette, les dépenses publiques et les impôts. Il n'y a strictement aucune raison pour que Madame de Montchalin soit légitime à la tête de la Cour des comptes.
Mais le problème de fond posé par la nomination de la ministre du budget à la Cour des comptes, c'est qu'Amélie de Montchalin devient juge et partie.
Elle est ministre du budget en ce moment. Elle n'est en rien du tout indépendante du pouvoir politique. Elle n'a même pas été élue quelque part. Elle est nommée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron vient le gouvernement en tant que ministre du budget. Donc j'allais dire que son lien est tellement étroit que chacun verra que l'indépendance, l'impartialité, la neutralité, etc. ne sont pas respectées. Un fait qui là est incontestable. Elle est en train de préparer le budget dont elle sera appelée à donner un avis dès le mois de septembre. Vous voyez bien que là, il y a un côté jugé parti. Vous pouvez être la plus forte des ministres impartiales. Vous pouvez être, là, il y a un moment donné où chacun se demandera en quoi elle agit, en tant qu'ancienne ministre du budget ou en tant que président de la Cour des comptes. Donc je pense que tout ça n'est pas souhaitable.
La présidence de la Cour des comptes présente l'amusante particularité de ne pas avoir de limitation dans le temps. Et qui plus est, le mandat est irrévocable. Montchalin, vous n'avez pas fini d'en entendre parler.
C'est une nomination pour 28 ans. Madame de Montchalin, si la loi ne change pas, et nous la ferons changer, naturellement, mais elle pourrait rester aujourd'hui 28 ans en fonction. C'est totalement inacceptable, c'est totalement insupportable, et ça démontre combien un clan aujourd'hui veut prendre en main, contre le peuple de France, tous les rouages de l'appareil d'État, tous les grands corps d'État, pour se maintenir au pouvoir, alors que les urnes rejettent massivement ce pouvoir.
Pour la députée MoDem Perrine Goulet, il ne sert à rien de s'alarmer. Elle en est certaine, Amélie de Montchalin ne restera pas 28 ans à son poste.
Je pense que vous connaissez mal Amélie de Montchalin. C'est quelqu'un qui aime aussi les challenges. Aujourd'hui, elle fera la Cour des comptes et je suis sûre qu'elle ne restera pas pendant 28 ans à la Cour des comptes. C'est une certitude, on la connaît bien. Et j'allais dire, vous voyez, moi qui suis beaucoup sur l'enfance, et quand on parle souvent du délai d'enfantisme, de dire il n'est pas compétent parce qu'il est enfant, là, elle aurait 40 ans, elle ne serait pas compétente. Ben, je trouve ça dommage. Et au contraire, moi j'aimerais bien un petit peu qu'on laisse certains postes aux plus jeunes plutôt que de toujours mettre des plus de 60 ans, 70 ans ou 80 ans, comme on peut voir à certains endroits. Je pense que la jeunesse, c'est aussi être les pieds dans le réel et qu'elle peut amener quelque chose d'intéressant, justement, à la Cour des comptes, parce qu'elle est les pieds dans le réel.
La jeunesse, c'est avoir les pieds dans le réel, affirme Perrine Goulet. Emmanuel Macron avait 39 ans lorsqu'il a été élu pour la première fois à la présidence de la République. Depuis, les Français sont largement vaccinés contre les vertus supposées de la jeunesse en politique, surtout lorsque le sommet de l'État prend des allures de république bananière.
Après la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, Clément Beaune au plan, Emmanuel Wargon à la commission de régulation de l'énergie, aujourd'hui Amélie de Montchalin à la Cour des comptes et peut-être demain Emmanuel Moulin, ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, comme gouverneur du Trésor. On trouve qu'il y a là une république des copains, une espèce de réflexe de cour qui est assez fréquent dans les fins de mandat, mais là qui est sans doute qui prend des proportions qui, de mon point de vue, hein, abîme un peu plus la République et notre démocratie au moment où tout le monde s'inquiète de l'avoir un peu mise à mal dans les enquêtes d'opinion et dans les sondages.
Alors, comment éviter le fait du prince ?
On peut regretter derrière tout ça qu'il y ait dans la nomination à la Cour des comptes l'absence de contre-pouvoir, notamment au niveau du Parlement, alors que si jamais il y avait un vote du Parlement, peut-être que ça donnerait l'occasion à Amélie de Montchalin de passer un grand oral, éventuellement de convaincre les collègues. Mais aujourd'hui, je crois que ce vote serait refusé. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron la nomme à cette fonction-là. C'est pour éviter d'avoir à affronter le regard du peuple.
Dans une quinzaine de mois, Emmanuel Macron quittera l'Élysée. Mais combien de copains aura-t-il recasé d'ici là ? Car une chose est sûre, les exfiltrations vont aller crescendo dans les mois qui viennent. Deux anciens premiers ministres qui se déplacent pour soutenir un candidat commun à la mairie de Paris. Et ce, alors même qu'ils se détestent. Pure Politique ne pouvait pas laisser passer ce grand moment d'hypocrisie. Antoine Etcheteau s'est donc rendu à la soirée de lancement de la campagne de Pierre-Yves Bournazel.
Ce soir, nous retournons au Cirque d'hiver pour le grand meeting de Pierre-Yves Bournazel.
Le candidat soutenu par les macronistes et Horizon, son parti, a décidé de se présenter à la mairie de Paris contre l'ALR Rachida Dati. Une division à droite qui pourrait bien faire gagner la gauche dans la capitale. C'est devant un parterre chauffé à blanc que Pierre-Yves Bournazel jaillit du sol, encadré par rien de moins que deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Après tout, nous sommes au cirque et Marlène Schiappa tient le rôle de Monsieur Loyal.
Pierre-Yves Bournazel !
Le centre et la droite jouent le couplet de l'union sacrée, ce qui ferait presque oublier qu'Attal et Philippe vont vraisemblablement s'entretuer pour la présidentielle de 2027.
Et ça montre bien, puisqu'on parlait de rassemblement, qu'il y a un candidat qui est Pierre-Yves Bournazel qui arrive à faire travailler des gens de différents partis, proches évidemment dans les idées, ensemble ce soir et pendant cette campagne.
Avant de s'étriper en 2027.
Pardon ?
Avant de s'étriper en 2027.
Ça, c'est vous qui le dites, on verra. Déjà réussi sur 2026, ce serait pas mal.
Édouard Philippe venu dire qu'il en a assez des commentateurs politiques.
Des commentaires, qu'est-ce que j'en entends ? Qu'est-ce que j'en entends des commentaires ? Des commentaires psychologiques, des commentaires tactiques, des commentaires stratégiques, des commentaires dans tous les sens, qui ont sans doute la vertu d'intéresser les commentateurs, mais qui ont l'inconvénient majeur d'emmerder totalement les électeurs.
N'en déplaise au maire du Havre, nous allons parler un peu stratégie. Pierre-Yves Bournazel n'est pour l'instant que troisième à 14% dans les sondages. Mais selon Paul Hatt, président démissionnaire du groupe Renaissance Horizon au Conseil de Paris, un pacte secret aurait été conclu entre certains socialistes et certains membres de l'équipe de Bournazel. Objectif, faire élire un maire de gauche qui ne serait pas Emmanuel Grégoire. D'accord, c'est un petit peu compliqué, mais ça explique pourquoi il veut se maintenir au second tour. Je rappelle que l'élection du maire de Paris se fait après le deuxième tour et que c'est le conseil municipal qui vote.
Les journalistes me posent beaucoup cette question. Mais pour qui allez-vous voter au second tour ? Je vais vous répondre à vous parisiennes et parisiens. Comme vous, le 22 mars, je vais voter Pierre-Yves Bournazel parce que celui qui peut porter le changement, celui qui peut le réussir, c'est le vote utile du premier tour. Et au second tour, on continue le rassemblement, on va plus loin, on additionne les talents et les compétences et on gagne l'élection municipale, on gagne Paris, on réussit le changement.
Le conseiller de Paris défend sa ligne, ni Dati, ni Grégoire.
Je pense même que les Parisiens sont en train de chercher la solution pour ne pas avoir à subir ce piège qui est au fond le match du passé contre le passé. D'un côté, une majorité sortante qui est à bout de souffle et qui ne cherche qu'à conserver le pouvoir. Et de l'autre, une offre qui serait un retour en arrière pour Paris.
Pierre-Yves Bournazel n'entend pas jouer les seconds rôles.
Nous ne sommes ni à vendre, ni à louer. Nous ne sommes pas là pour faire juste un petit tour. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour participer. Nous ne sommes pas là pour être des supplétifs. Nous sommes là, chères Parisiennes et chers Parisiens, pour gagner.
Ni à vendre, ni à louer, mais en tout cas, il compte bien se payer une grosse tranche de gâteau.
Merci d'avoir regardé cette chronique. Un pouce, un partage, voire un abonnement à la chaîne, et nous serons ravis, comme l'algorithme. Pour nous soutenir financièrement, je vous donne rendez-vous sur DonorBox. Vous le savez, vos dons constituent l'essentiel de nos ressources. Pour que Pure Politique continue, nous avons besoin de vous. On se retrouve lundi pour un Pôle Express.